J'aimerais dédier cette émission à une migrante. Elle est arrivée du Soudan, a parcouru 6000 km et s'est finalement installée à Paris. Partout où elle passait, elle suscitait l'enthousiasme et la curiosité. On voulait la voir en vrai, on l'accueillait avec des hurrahs. Elle s'appelait Zarafa et fut la première girafe à fouler le sol français en 1827. Zarafa était un cadeau offert à Charles X par le pacha d'Égypte. Le transport de cet animal d'envergure fut une véritable épopée, une traversée de la Méditerranée en bateau. Et c'est à pied qu'elle a parcouru la France, de Marseille à Paris. Elle fut ensuite accueillie au Jardin des Plantes, où les visiteurs se sont pressés par centaines de milliers. On parla de girafomania. Peu de monde s'interrogeait à l'époque sur le bien-être des bêtes. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les zoos ont fait de gros efforts pour améliorer les conditions de vie dans leurs enclos et deviennent des conservatoires de la biodiversité. Mais les animaux en captivité sont au cœur d'un débat qui prend de plus en plus d'ampleur. Beaucoup veulent interdire les cirques qui proposent des numéros avec des fauves ou des éléphants. Certaines villes et même certains pays refusent désormais de les accueillir. Peut-on ainsi balayer une tradition vieille de plusieurs siècles? Le parc Astérix ou le Marineland d'Antibes propose des spectacles de dauphins et sont la cible régulière des défenseurs de la cause animale. L'histoire ne dit pas ce qu'en aurait pensé Zarafa. Faut-il en finir avec les animaux spectacles? C'est la question qu'on se met sous la dent jusqu'à 13h.
Le débat du midi. Dorothée Barba sur France Inter.
Trois invités autour de cette table. Bonjour Kevin Terranova.
Bonjour Dorothée, bonjour tout le monde.
Bienvenue sur France Inter. Vous êtes le porte-parole du collectif des cirques, collectif né l'année dernière, qui regroupe les cirques traditionnels français, y compris les gros cirques comme Pinder ou Medrano. Franck Schrafstetter vous fait face, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association Code Animal, qui se bat pour interdire les cirques avec des animaux, mais aussi pour fermer les zoos à plus long terme, on va y revenir. Et Marie-Claude Bomsel est là également, bonjour.
Bonjour.
Vétérinaire, professeur honoraire au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous avez passé des années avec les animaux de la ménagerie.
Je n'ai pas connu Zarafa.
Du Jardin des Plantes. Comment va Nénette d'ailleurs?
Fort bien, fort bien. Elle arrive bientôt à 50 ans. Elle peint, elle fait beaucoup de choses, elle est très occupée. Elle est avec des copines, si je puis dire.
Nénette est un orang-outan.
Voilà, c'est un orang-outan symbole, justement, quelque part, de la régénérescence des eaux. Parce que quand je suis rentrée dans les années 70, les orang-outans vivaient 7-8 ans. Or, vous voyez, elle est arrivée en 72 et elle est maintenant toujours avec nous. Et
elle a 46 ans, donc.
Pardon ?
Elle a 46 ans, c'est ça, Nénette ?
Elle a presque 50 ans, car moi, je l'ai eue dans les bras tout bébé. Et à cette époque, on ne savait pas bien juger de l'âge des animaux. Et on se rend compte maintenant qu'elle était plus vieille qu'on croyait. Elle a une... Allez, on va dire 49, vous savez, c'est comme les femmes, hein. On n'aime pas passer la cinquantaine.
On ne donnera pas l'âge de Nénette, ce ne serait pas très galant. Allez, on donne la parole tout de suite à nos invités et vos réactions nous parviennent sur notre site internet franceinter.fr à la rubrique Le débat de midi. Un peu de pop anglaise qui donne envie de siffloter à présent. Voici Rex Orange County, Loving is Easy. L'amour c'est fastoche, ça c'est lui qui le dit. Hein. Bienvenue à tous.
Loving is easy. Had me fucked up. It used to be so hard to see. Yeah, loving is easy when everything's perfect. Please don't change a single little thing for me. Listen, girl, when you can't even hide it, and it didn't take forever to find it. I was all on my own, almost glad to be alone until love came. On time, so loving is easy. You had me fucked up. It used to be so hard to see. Yeah, loving is easy when everything's perfect. Please don't change a single little thing for me. Ooh, oh, oh, oh. Hide it, and it didn't take forever to find it. I was all on my own, almost glad to be alone until love came in on time, oh, on time. Loving
Derrière ce nom de Rex Orange County se cache un Anglais de 20 ans qui est donc né en 98, l'année où la France gagnait sa première Coupe du Monde avant celle de dimanche prochain, évidemment. On parle de bien-être animal aujourd'hui dans le débat de midi.
Au tout début, c'est juste des chevaux et des acrobates et des saltimbanques. Et puis, à l'époque coloniale, au milieu du 19e siècle, se sont greffés des animaux sauvages, des tigres, des lions, des éléphants, qui sont restés les emblèmes du cirque actuel.
Les animaux souffrent terriblement dans les cirques à cause de l'itinérance, à cause de l'étroitesse des cages dans lesquelles ils vivent, à cause du dressage qui est fatalement violent pour des animaux sauvages.
Depuis à peu près 40 ou 50 ans, le dressage des animaux ne se fait plus par la force, mais par la récompense.
Moi, je ne suis pas évidemment favorable à la captivité des animaux. Je ne suis pas favorable à l'idée qu'on fasse du spectacle avec cette captivité-là. Donc, je veux prendre justement le sujet d'une manière très profonde.
Mon discours, c'est de dire qu'aujourd'hui, le public ne veut plus en voir d'animaux sauvages dans les cirques et que je pense que la meilleure solution, c'est de renoncer à la présentation d'animaux.
SeaWorld de San Diego a annoncé sa décision de mettre fin à ses spectacles d'orques d'ici la fin de l'année prochaine.
Si les pingouins s'en vont, pourquoi pas moi ? Les pingouins sont cinglés. Et qu'est-ce qu'il a dit ?
Le débat du midi. Dorothée Barba sur France Inter.
Faut-il en finir avec les animaux spectacles? Avec Marie-Claude Bomsel, ancienne vétérinaire de la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris, Kevin Terranova, représentant des cirques, et Franck Schrafstetter de Code Animal, association, je le disais, qui milite pour défendre la faune sauvage captive. Première question sur la différence entre les zoos et les cirques, parce que ce sont des enjeux très différents. Vous militez, vous, pour que les deux s'arrêtent, pour que les deux formes de spectacle autour des animaux s'arrêtent. Vous avez une échéance différente? Vous sentez que le combat n'est pas prioritaire pour les zoos, par exemple?
Oui, tout à fait. Il y a une véritable avancée au niveau des cirques et un véritable débat qui est posé au niveau national, alors que les zoos, j'ai envie de dire, on continue à faire mûrir le problème. Voilà, donc ça doit mûrir. Et un jour, il y a des zoos qui, je pense qu'on les interdira à moyen, voire long terme, mais en tout cas, le fruit n'est pas mûr aujourd'hui.
La France n'est pas mûre, c'est ce que vous dites, Marie-Claude Bomsel. Vous me disiez en arrivant, c'est un débat qui traîne depuis des décennies en France.
C'est un débat qui traîne depuis les années 70-80, en fait. Il a démarré à ce moment-là, au moment de l'écologie. Il était extrêmement justifié à cette époque, particulièrement pour les zoos. Bon, moi, je connais bien le domaine des zoos, parce que c'était l'époque où on amenait les animaux de la nature dans des conditions absolument sordides pour les mettre dans des cages, effectivement, fort étroites et tout. Et j'ai personnellement vu des choses où on parlait de nénettes, mais il y en a eu bien d'autres, où les animaux arrivaient semi-blessés, voire totalement moitié morts, etc., etc. Ils vivaient très peu de temps et on les changeait. Alors déjà, il y a eu évidemment une prise de conscience des gens qui travaillaient à leur côté, car ne croyez pas que c'est simple de travailler à côté d'animaux que vous voyez dans ces conditions. Vous rentrez pour les animaux, vous voyez ça, c'est horrifiant. Et puis il y a une idée de la communauté internationale qui a commencé à se défendre, et on a vu arriver, je ne vais pas vous citer toutes les lois, mais 73, la Convention de Washington, on a créé le monde EASA, qui est l'Europe des zoos, puis ensuite on a créé des plans d'élevage, on a travaillé en international, on en parle peut-être plus, etc., etc. Et il y a eu une nouvelle révolution, puisque maintenant, nous ne réintroduisons pas, c'est très rare les animaux, nous renforçons certaines populations. Et pour quelqu'un comme moi qui ai vu l'un et l'autre, c'est énorme, c'est un progrès. Il y a rarement des métiers qui font ce côté-là, qui ont la chance de balancer dans l'autre sens.
Alors, on va effectivement séparer les problématiques. Commençons par les cirques, Franck Schrafstetter. Pourquoi est-ce que vous réclamez que cessent les spectacles de cirque avec des animaux? Il faut rappeler qu'environ 90 villes en France ont annoncé qu'elles ne voulaient plus accueillir de cirque de ce type.
Alors, il y a deux raisons principales. La première raison est une raison éthique. Ça pose une question par rapport à notre rapport, nous, espèces humaines, par rapport aux autres espèces animales. Les animaux sont privés tout simplement de territoire, sont privés de mouvement, sont privés d'aller chercher leur nourriture eux-mêmes, privés d'aller chercher leur partenaire sexuel, enfin privés de tout, c'est-à-dire qu'on leur impose de rentrer sur la piste pour faire leur numéro et ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'on a vraiment un animal qui devient un produit de consommation et donc ça pose une véritable question d'une forme de banalisation de cette verticalité, c'est-à-dire qu'on est dans une société totalement anthropocentrique, c'est-à-dire une société verticale dans laquelle l'homme est en haut et les autres espèces animales sont en bas, et le cirque, tout comme les zoos à mon avis, sont cette démonstration et cette banalisation d'une forme verticale qui pose l'homme qui peut se servir pour des choses assez futiles comme le divertissement de l'animal. La deuxième raison est une raison, j'ai envie de dire, plus zoologique, éthologique, c'est-à-dire que les animaux ont une palette de comportements, des besoins qui sont propres à leur espèce, besoins comportementaux, des besoins sociaux, des besoins locomoteurs. Je peux prendre un exemple tout simple, un éléphant, c'est un animal qui vit, l'éléphant d'Afrique par exemple, société matriarcale, en groupe, en harde de plusieurs dizaines d'individus. En captivité, on les trouve seuls, voire 2, 3, 4 éléphants grand maximum. C'est un animal qui normalement marche en moyenne 17 km par jour. Je ne fais pas de dessin pour les cirques ou pour les zoos. C'est un animal qui est en contact avec l'eau 2 heures à peu près par jour. Dans les cirques, d'ailleurs, lorsqu'on avait travaillé sur l'arrêté du 10 mars 2011, les cirques se sont évertués à ce qu'il n'y ait pas de permanence d'eau, etc.
Un arrêté qui avait amélioré les conditions de vie des animaux de cirque.
Qui avait donné des normes de détention qui n'existaient pas à l'époque. Voilà.
Alors la parole est évidemment à Kevin Terranova, qui représente autour de cette table les professionnels du cirque traditionnel. Produit de consommation, les animaux dans les cirques, Kevin Terranova ?
Produit de passion. Au cirque, on vit avec les animaux, on les aime. Déjà, il y a une législation, je voudrais quand même en parler pour commencer, très stricte. Vous avez l'arrêté du 18 mars 2011 qui a été fait en concertation avec les professionnels du cirque, des représentants de l'État, mais également les associations animales. À l'époque, tout le monde était content et cet arrêté garantit vraiment le bien-être animal, notamment encadre toutes les règles des animaux dans les cirques. Par exemple, les conditions d'éducation, les conditions d'hébergement, les transports, l'alimentation, etc. Après, pour avoir un animal, il faut avoir un certificat de capacité. C'est un diplôme obligatoire remis par les ministères de l'Environnement qui vérifie que vous avez les installations, les expériences et les compétences nécessaires pour assurer le bien-être animal. On n'a pas de certificat de capacité qui veut. Il faut prouver qu'on a fait plusieurs années de stage dans des cirques, dans les zoos, qu'on connaît les animaux très bien et surtout qu'on a les installations nécessaires pour leur assurer le bien-être.
Vous nous dites donc que c'est une profession très réglementée. J'aimerais vous lire le courriel d'une auditrice qui nous écrit. Elle a travaillé avec des élèves de CM1 sur cette question parce qu'elle est enseignante apparemment. Les enfants, nous écrit-elle, sont tous d'accord sur le fait qu'il est cruel, injuste, dégoûtant d'enfermer des animaux sauvages, de les retirer de leur milieu naturel, de leur fratrie, de leur faire faire des numéros idiots qui les ridiculisent. Et un élève de CM1 a écrit « Vous les humains, vous pourriez vous imaginer vivre comme ces animaux? Est-ce que vous accepteriez de faire les guignols devant des milliers de personnes et de vivre toute votre vie derrière des barreaux ?» Qu'est-ce que vous répondez à ces enfants, Kevin Terranova ?
C'est pas des phrases d'enfants de CM1, c'est des phrases copiées-collées d'associations et de ce qu'ils ont lu sur Internet. La réalité est tout autre. Les animaux ne sont pas des guignols, ce sont des êtres sensibles, magnifiques, dotés de beaucoup de sensibilité et en même temps d'énormément de force. Au cirque, ils sont respectés, aimés, et justement en venant au cirque, on est proche de ces animaux, on les voit et surtout on les voit en exercice. Et proche des yeux, proche du cœur, c'est en les voyant proches qu'on apprend à les connaître et qu'on apprend que dans leur milieu naturel, ce qui se passe est dévastateur, destructeur, et qu'au cirque, au moins, ils sont dans des conditions avec des dresseurs qui ont des diplômes reconnus par l'État, qu'ils sont aimés. Pour moi, les vrais défenseurs des animaux, ce sont... Alors, il y a plein de défenseurs des animaux, mais surtout les vrais, ils sont au cirque. C'est eux qui se lèvent très tôt le matin, qui se couchent très tard, et qui parfois passent leur nuit entière auprès des animaux. Dans un cirque d'amis à moi, il y a 3 jours, il y a eu une naissance de 3 lionceaux, et les dresseurs et les soigneurs ont passé leur nuit entière auprès des animaux. Donc ça, c'est des choses qu'il faut dire et c'est la vérité.
Frank Schraffstetter, ça maintient un lien entre le grand public et les animaux, ces spectacles de cirque?
Oui, mais un lien qui est pervers puisque ça maintient justement cette verticalité. C'est-à-dire que le public voit que l'animal est au service de l'homme. Et donc c'est un lien qui est vertical alors qu'il faudrait mieux avoir une vision horizontale.
Marie-Claude Bamsel.
Oui, non, moi je voulais revenir sur ce que vous dites. Je suis entièrement d'accord. Je crois qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui aiment les animaux dans les cirques. Il n'en reste pas moins que c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas approcher des lionceaux quand il y a une mère qui est en train d'accoucher. Il ne faut pas l'imprégner parce qu'après, cet animal est définitivement perdu pour le récupérer. Même pas dans la nature, mais même dans un parc zoologique s'il y avait un problème quelconque ou quoi que ce soit. Ces animaux-là n'ont pas à être approchés. C'est déjà hyper difficile que les garder sauvages. Ce que nous essayons, nous, de faire en parc zoologique, c'est-à-dire qu'on a... Moi, j'ai eu la chance, comme vous, hein, cette chance inouïe d'élever des bébés tigres, d'élever des panthères, des jaguars, toujours dans les années 70. Il n'y a pas plus merveilleux pour l'homme. Mais j'ai bien vu après pour l'animal, quand nous on le réinsérait dans des groupes, bon, pas les guépards ou autres qui sont des animaux sociaux comme les lions et tout, ils n'arrivent plus à rentrer, ils sont perdus, ils sont imprégnés, ils ont perdu leur comportement naturel. C'est pas l'amour qui compte pour l'animal, et je suis sûre que vous en avez, et j'en ai tout autant que vous. C'est leur respect, et leur respect c'est d'essayer de les tenir au mieux. En captivité, on peut discuter sur les zoos, ils ont beaucoup évolué, ils ont encore énormément à évoluer, et les cirques doivent évoluer en ce sens aussi.
Kevin Terranova.
Alors déjà, pour l'évolution, sachez qu'on a un discours très progressiste. Tous les cirques évoluent et on doit évoluer. Alors, on évoluera vers des cages plus grandes, vers des nouvelles manières d'éduquer les animaux, un nouveau contact avec l'homme, avec les animaux, pardon. Par contre, il y a une chose sur laquelle on cédera jamais, c'est que pour nous, tous les animaux, toutes les espèces d'animaux, ont leur place dans nos cirques. Mais pas n'importe quel animal, pas dans n'importe quelle condition et pas entre les mains de n'importe qui. Un tigre qui vient de la jungle, qui n'a jamais connu l'homme, n'a rien à faire dans un cirque. Mais un tigre qui, depuis 10-15 générations, est né au contact de l'homme, tous les jours est nourri par l'homme, soigné par l'homme, il n'a plus rien à voir avec son congénère à l'état sauvage. Et cet animal-là, à l'heure actuelle, il y a tout qui nous prouve qu'il est bien, ils vivent plus longtemps, ils sont en parfaite santé. Vous savez, à l'heure actuelle, en France, le cirque avec animaux, c'est 13 millions de spectateurs par an. À l'heure actuelle, des cirques sans animaux en France qui tournent, j'en connais pas. Dans la plupart des pays, vous avez des cirques avec animaux.
Je peux vous parler du Cirque du Soleil, la troupe canadienne qui fait un carton dans le monde entier et
oui,
qui n'a pas d'animaux.
Mais qui vient que très rarement en France, il n'est pas tout le temps en France, il ne fait pas une tournée toute l'année.
Et qui remplit largement ses tribunes.
Oui, mais il y a plein de cirques en France qui remplissent leurs tribunes et qui font ça toute l'année dans les petites villes et villages de France. En France, dans toutes les grandes villes, vous avez des festivals de cirque et partout dans les petites villes et villages, vous avez des cirques qui passent. Dans tous les pays, quasiment, vous avez des cirques avec animaux. Aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Espagne,
il
en Italie.
Ils régressent, ils régressent. Regardez partout.
On en reviendra. Et justement, avant l'acte délibéré d'acheter une place de cirque, la première chose que les gens font, c'est ils veulent voir les animaux. Et si les animaux étaient maltraités, maigres, frappés, cela se voit et je vous garantis qu'ils n'achèteraient pas leur place.
Alors il y en a un qui a changé d'avis, il s'appelle André-Joseph Bouglione, c'est un ancien dompteur, fils et petit-fils de dompteur. Il a renoncé récemment au spectacle avec des animaux, ça a eu un retentissement évidemment dans le monde des circassiens. Comment avez-vous réagi à titre personnel, Kevin Terranova?
Alors j'ai vu des photos de sa ménagerie sur internet et je lui remercie d'avoir arrêté. Il y a des photos qui sont sur sa ménagerie sur internet.
Il a beaucoup dit
internet.
Que ses éléphants étaient très malheureux.
Il a jamais eu d'éléphant.
Il développait des troubles du comportement. Il n'avait pas d'éléphant.
Non, il a jamais eu d'éléphant. En fait, c'était un cirque de taille moyenne, voire petite. À la télé, on n'entendait pas beaucoup parler. Et le jour où il a arrêté, tout le monde en a parlé. Et c'est un produit pur marketing. Le vrai cirque Bouglione à Paris est magnifique. Il y a toujours des animaux.
Le cirque Bouglione, qui effectivement officie au cirque d'hiver, un prestigieux cirque d'hiver, fait toujours des spectacles avec des éléphants, notamment. D'ailleurs, comment réagissez-vous, Franck Schrafstetter, au fait que la ville de Paris ne fasse pas partie de la liste de plus en plus longue des villes qui interdisent désormais les cirques animaliers?
Elle fait partie de la liste puisqu'elle a fait un vœu. Alors aujourd'hui,
elle a fait un vœu, mais ce n'est pas encore interdit formellement, puisque le cirque d'hiver existe toujours.
Mais M. Terranova pourra en parler, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, il n'est pas possible de faire un arrêté qui interdise de manière définitive et absolue des cirques avec animaux. Donc aujourd'hui, il y a les villes qui s'expriment au travers d'un vœu, c'est ce que nous on préconise actuellement. Donc ils disent simplement, et c'est ce que Paris a fait, comme Strasbourg, Nevers, Rennes, Montpellier, qui ont dit qu'elles souhaiteraient que l'État prenne ses responsabilités et interdise la présence d'animaux dans les cirques. Je voulais juste revenir sur une chose par rapport à ce que M. Terranova a dit sur le fait que les animaux sont bien. Alors moi, je ne doute pas que les gens du cirque aient un attachement pour leurs animaux, mais il faut parler au niveau du respect de l'animal. Alors j'ai envie de dire, pour sortir du débat de qu'est-ce que nous, protecteurs des animaux, on peut dire et qu'est-ce que vous pouvez dire, il faut regarder ce que l'animal nous dit. Et là, je pense que Mme Baumzel est encore mieux placée que moi. Les animaux, c'est ce qu'on appelle l'éthologie, il faut voir le comportement de l'animal. On voit très clairement en captivité, et notamment au niveau des tigres et des lions, que les animaux développent ce qu'on appelle les troubles du comportement. Les troubles du comportement, ce sont, alors il y en a différents, ça peut être le lâchage de barreaux, ça peut être la codophagie, mais ce qu'on peut voir notamment dans les cirques, et n'importe quel visiteur peut voir, ce sont les animaux qui font des allers-retours incessants dans les cages. Ce sont des éléphants, par exemple, qui se balancent d'une patte sur l'autre. Et donc, on demande aux éthologues, donc aux spécialistes de la cause animale, enfin du comportement animal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'animal n'arrive pas à s'adapter à sa captivité, et ça veut dire qu'il est dans une souffrance chronique.
Marie-Claude Baumzel.
Oui, c'est ce qu'on appelle effectivement de la stéréotypie. Nous en reste encore parfois dans les parcs zoologiques. On connaît bien, hélas, le problème. Et en plus, le fait que les animaux sont transportés accroît un peu ce problème-là, parce qu'à chaque fois, ils doivent retrouver leur position. Ce pourquoi nous avons d'ailleurs eu beaucoup de difficultés dans les parcs zoologiques, parce qu'on sait sait aussi que certains animaux ont besoin de se cacher. Et là, moi, j'en appelle au public à chaque fois. C'est au public d'accepter de ne pas voir immédiatement l'animal, parce qu'on revient à un éléphant. Un éléphant, ça marche beaucoup, nous le savons tous ici. Bon, nous, quand on fait de très grands parcs, comme il y en a à Beauval et autres, parce que maintenant, par exemple, à Paris, nous avons refusé qu'il y ait des éléphants, on trouvait qu'il n'y avait pas assez de place, on s'est fait engueuler, si je puis dire, vertement, par la municipalité de l'époque, parce
ça,
que
c'est pas bon pour la billetterie,
effectivement. Et par contre, quand vous avez des éléphants sur d'immenses parcs, on les voit pas bien. Et le public râle à ce moment-là, effectivement. S'ils râlent dans les zoos, ça je peux vous le dire, c'est le paradoxe du public, qui veut voir, en plus, si vous mettez pas papa, maman et les enfants, alors que personne ne vit comme ça, c'est pas possible. Si vous mettez des caches et que vous expliquez qu'ils sont nocturnes, qu'ils se resteront qu'à un moment et tout, voilà. Donc c'est au public de savoir qu'il en est comme ça. Quand on va dans la nature, moi j'ai la chance d'y aller beaucoup, vous voyez très peu d'animaux. Et là aussi, d'ailleurs, les gens râlent, et on n'a pas le temps de parler de ça, mais du coup, on fait des safaris. Moi, j'ai beaucoup travaillé en Afrique, où on ramène les animaux à l'endroit où les gens vont passer, de façon à ce qu'ils en aient pour leur argent. On est complètement fous.
Pour en revenir à ces troubles du comportement, Kevin Terranova, est-ce que vous les observez dans les cirques que vous connaissez si bien, ces animaux qui tournent en cage?
Alors, pas du tout. Déjà, juste...
Pas du tout.
Dernier point.
Jamais.
Dernier point par rapport aux villes.
Vous répondez à cette question.
Je vais y répondre avec grand plaisir. Juste par rapport aux villes, pour être bien clair dessus. Effectivement, il y a quelques villes qui ont pris des arrêts qui ont été cassés par les tribunaux et d'autres villes qui prennent des vœux. Après, il faut savoir que c'est quelques villes, je ne sais pas, peut-être 100 sur 36 000 communes. C'est rien du tout. C'est 0,0.
Effectivement, on parle de 90 environ pour l'instant.
Par contre, ça fait 14% de la population en termes d'habitants. Il faut voir pas en termes de villes, mais d'habitants.
Sur 36 000 communes, donc c'est rien du tout. Et maintenant, on va rentrer dans le fond du sujet, c'est-à-dire la science. Et là, surtout, dites-moi si je me trompe, à l'heure actuelle, aucune étude de terrain, je n'ai pas dit thèse, de personnes qui ne sont pas sur place. J'ai dit aucune étude de terrain faite sur les animaux, que ce soit sur le taux de stress qu'on peut prendre avec le taux de cortisol, que ce soit sur plein d'éléments, n'a prouvé qu'un animal n'a pas sa place dans un cirque. Et toutes les études, il y en a eu des très grosses qui ont été faites sur les animaux, prouvent que les animaux ont leur place dans les cirques. Et là, je voudrais revenir sur la plus grande étude qui a été faite sur les animaux de cirque. Elle a été commanditée par la RSPCA. Je pense que vous connaissez, c'est la plus grande association de défense du droit des animaux britannique, qui, pour prouver que les animaux dans les cirques, a mandaté une éthologue mondialement connue, je pense que vous devez connaître, Marthe Keeley-Worthington, qui l'a payée sur 18 mois, sur 8 cirques, et 3000 heures d'observation. Ces résultats ont été que, comme tout, il y a des choses qu'on peut faire pour faire avancer, et de toute manière, il faut être progressiste, il faut toujours avancer dans le bon sens, mais elle a dit, mot pour mot, je suis une scientifique reconnue internationalement, la RSPCA était convaincue que ma conclusion aurait été que les animaux dans les cirques devraient être interdits. Malgré la forte pression imposée par la RSPCA, mes conclusions ne montrent aucun argument qu'une interdiction des animaux leur serait bénéfique. Mes conclusions, bien que le résultat d'un financement par un groupe défendant le droit des animaux sont le vrai résultat d'une étude désintéressée, qui a été très complète, hein, je le rappelle, par une éthologue, et montre que les animaux ne doivent pas être interdits des cirques. Et si on les interdit, on devrait interdire les animaux chez les particuliers, les courses de chevaux et tout ce qui s'ensuit.
Tout ça ne me dit pas si vous avez déjà vu des troubles du comportement dans les
cirques. Non, alors effectivement, j'ai déjà vu des éléphants s'impatienter, des tigres tourner dans une cage, mais c'est à des moments bien précis, avant de rentrer en piste, avant la nourriture.
Vous y voyez une forme d'impatience d'aller sur scène?
Bien sûr. L'éducation, enfin les exercices qui sont demandés, les choses qui sont faites à l'heure actuelle, c'est des choses 100% naturelles. Pour un tigre sauter entre des tabourets, se rouler par terre, sauter l'un sur l'autre, il n'y a rien de contre-nature.
Franck Schrafstetter.
Oui, et donc par rapport aux études, mais moi je peux vous citer aussi Bruno Kufner, je veux dire, on peut toujours trouver quelques études qui montrent choses dans tous les domaines.
Qui a fait des études
par contre, je vais vous donner quand même, c'est que la Fédération Européenne des Vétérinaires, qui représente quand même 200 000 professionnels de la santé, a appelé en juin 2015 à interdire tous les mammifères sauvages dans les cirques. Il y a la EAZA, dont a parlé Madame Baumzel, qui est donc l'association représentative des zoos en Europe, qui a demandé à ce qu'aucun zoo ne soit, aucun cirque ne soit accepté à l'EAZA, parce que justement.
Je sais pas si l'inventaire des études apporte beaucoup aux auditeurs.
Non, mais je veux dire, c'est, là, voilà.
Des, oui, mais là, c'est
ce sont des groupements,
de terrain,
c'est pas une. Personne, ce sont
là,
des...
ce sont pas des groupements. Sont
Marie-Claude Baumzel.
Non, moi, je trouve effectivement que... Je suis assez d'accord. D'abord, l'auditeur va vite se perdre si on commence à donner des tas de noms de toutes sortes. Je pense personnellement que c'est pas les études. Moi, je suis bourré de diplômes. Ça ne veut pas dire que je suis bien. Je vous le dis tout de suite. C'est ça le problème.
Bah,
c'est vous et moi et les soigneurs et autres qui voient vraiment. Oui, mais attention, il y a des scientifiques qui ne travaillent pas au quotidien. Moi, j'ai beaucoup souffert à l'époque. Ça disparaît, nous. chez nous, quand il y avait des animaux qui se balançaient comme ça. Et j'en vois encore, dans certaines villes, des gens qui amènent des éléphants, ces grands marcheurs, dans des toutes petites camions, et qui les mettent devant des supermarchés. Et je vois l'animal faire de ces choses. Et vous le connaissez, ce système-là.
Alors, s'il y a des choses qui ne vont pas, horrible. Il faut le dénoncer. Mais bien sûr, au service concerné.
Marie-Claude Bamsel, je rappelle que vous êtes l'ancienne vétérinaire de la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris. Cette impatience du lion en cage dont parle Kevin Terranova, elle vous convainc ?
C'est pas une impatience, ce sont des grands marcheurs, partiellement les tigres, partiellement moins les lions et tout. Et en fait, on les voit comme il y a des singes qui tournent sur eux-mêmes. On le connaissait, nous, particulièrement, parce qu'il y a aussi un devenir, l'animal. Vous, dans les cirques, vous les gardez, mais nous, dans les zoos, on voulait les rentrer dans des groupes. Et des animaux qui avaient été, je le répète, imprégnés, c'est-à-dire approchés l'homme et tout, quand ils rentraient dans les groupes, là, je peux vous dire qu'ils étaient stressés, ils avaient perdu toute notion et tout. Ils se mordaient, ils tournaient en rond, en continu et tout. J'ai connu tout ça. Nous avons effacé tout ça. C'est pour ça aussi qu'on a demandé à ce que les animaux aient un maximum de comportement. C'est obligatoire. Mais nous travaillons entre nous particulièrement. C'est pas la peine de prendre des gens extérieurs. Ils n'y connaissent rien. C'est les gens qui sont au cul des animaux, pardon.
Oui, les soigneurs.
Question posée par Christian par courriel. N'y a-t-il pas un distinguo à faire, écrit-il, entre les animaux sauvages et les animaux d'élevage? Franck Schrafstetter.
Les animaux sauvages ont des besoins qui sont propres à leur espèce, qui sont beaucoup moins, on a beaucoup de mal à y répondre en captivité, ce qui ne veut pas dire que les animaux domestiques, eux, n'ont pas non plus des besoins qui sont spécifiques.
Rappelons pour le public, souvent ils oublient, à la base de l'animal domestique, il y a un animal sauvage. Mmh. Les animaux sauvages sont arrivés en tant qu'espèce, pendant des millions d'années, ils sont formés leur comportement, et nous réduisons ça en l'espèce de 10 ans en animal domestique. C'est trop dur, c'est pas possible.
Kevin, c'est pas 10 ans.
Alors, Kevin Terranova, représentant des cirques, allez-y.
Par rapport au stress, il y a eu des études sur le taux de cortisol, qui est l'hormone de stress présent chez l'homme et chez l'animal, après les transports, après les répétitions, après les éducations, que ce soit sur le sang. Ils ont tous trouvé que le taux de stress était normal.
Si j'étais une vilaine scientifique, je vous dirais que c'est beaucoup plus ennuyeux. Au contraire, c'est qu'ils ont eu tellement de stress avant qu'il y a une perte complètement au niveau des surrénales.
Non, ça fait 10-15 générations qui vivent en captivité, il n'y a pas de stress.
Kevin Terranova, je crois que vous voyez dans le combat qui est mené notamment par Franck Schrafstetter et par tous les militants de la cause animale, vous y voyez une forme de discrimination sociale, je crois. Pour quelle raison ?
Alors, ça, je n'ai jamais écrit ça, mais effectivement, on le pense au fond de nous. Quand on s'attaque à des cirques, on s'attaque à 99% d'entreprises familiales gérées par un couple, leurs enfants. Et effectivement, on a plus l'impression que c'est facile d'attaquer ces familles qui sont sur le terrain, qui n'ont pas la force de se défendre, que d'aller s'attaquer là où il y a de la vraie maltraitance animale et où là, il est beaucoup plus difficile de s'attaquer. On aimerait bien, au lieu de les voir manifester devant un petit cirque familial, aller voir manifester, dans certaines cités où il y a des trafics de chiens. Là, ça peut être intéressant aussi d'y aller.
Allez, vous avez toute l'attitude pour parler sur France Inter. Toute l'attitude, c'est le titre du nouvel album de Dominique A que notre programmateur musical Jean-Baptiste Audibert a choisi pour vos précieuses oreilles. Émission préparée par Nelly Didlot, réalisée par Fabrice Lègle. Henri Bérec est à la technique.
D'où sont tous ces enfants de la plage, lianes agiles, brassant le sable, d'où sortent ces grappes fiévrés, casseurs d'écume sous liés, là de sa grippe et les autres en cercle, compte les points, les serre de près. La mort, le sable, le cercle éclate et ils repartent le poing levé. D'où sont tous ces enfants de la plage? Ont-ils un lit et une table et une chambre pour s'isoler? Des vitres par où regarder. Ils ont les yeux teintés de l'encre vive, de ce que l'enfance va lâcher. D'où sortent ces briseurs d'écume, mordant le sable et qui repartent le poing levé.
crânes agiles, brassant le sable, d'où sortent ces grappes enfiévrées, casseurs d'écume, souffle lié, la de sa grippe et les autres en cercle, compte les points, les serre de près, la mort, le sable, le cercle éclate, et ils repartent le poing levé.
Enfant de la plage, c'était Dominique A, dont certaines chansons d'ailleurs endossent le combat antispéciste. On parle des animaux dans les cirques, dans les delphinariums, dans les zoos aujourd'hui, dans tous les endroits où ils sont censés nous divertir. J'aimerais qu'on entende à présent une autre vétérinaire dont le point de vue est intéressant car elle travaille avec les cirques. Elle est en direct au téléphone. Bonjour Cécile Magnan.
Oui, bonjour.
Alors que pensez-vous de ce mouvement des villes qui interdisent les cirques avec des animaux ?
Alors, c'est un mouvement, effectivement, alors c'est très compliqué pour moi, dans le sens où comme vétérinaire, on aime les bêtes, on se sacrifie pour elles, etc. Moi, je suis rentrée dans les cirques, et ça je tiens à le dire, je suis vétérinaire équin, j'y suis rentrée en me disant, j'avais tous les archétypes, toutes les vieilles légendes, pour moi, c'était des tortures d'animaux, c'était l'horreur, il fallait les sauver, il fallait y aller. Je suis vraiment allée en cirque dans cette condition-là mentale. Bon, j'ai découvert des gens passionnés, des animaux qui finalement étaient traités avec douceur. J'ai découvert des gens qui étaient prêts à écouter. Et je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui, parce qu'il y a des combats qui sont communs, et je suis très étonnée de voir les gens s'opposer, se battre pour des combats communs. On parle de bien-être animal, mais dans les cirques aussi on en parle. Et on évolue vers ça. Et c'est à nous les professionnels d'aller épauler les gens, et d'aller donner du conseil, d'aller soigner les animaux, de rentrer au cœur du cirque pour faire évoluer les choses. J'ai une éminente consoeur qui est avec vous, qui a fait des miracles avec les zoos. Mais on s'en met dans les cirques. Mmh. Mais oui, je veux dire, elle a bercé tous mes rêves de vétérinaire avant même que je le sois. Oui, il faut évoluer. On a évolué dans les zoos. On parle beaucoup de sauvage, pas sauvage, exotique, pas exotique. J'ai eu la chance de voyager à travers le monde. Avez-vous vu la condition des éléphants sri-lankais ? Avez-vous vu la condition des éléphants en Asie, attachés à une chaîne ? Sans compter ceux qui ont sauté sur des mines antipersonnelles. Je veux dire, les tigres sont pourchassés pour leur peau, les lions sont tués pour moins de 10 000 euros. Les safaris, le moindre léopard maintenant qui a peut-être réussi à choper une gazelle, il y a 25 4x4 qui le surveillent à moins de 10 mètres. Je veux dire, on est en train de parler de l'humanité.
Cécile Magnan, on pourrait vous répondre qu'il est plus simple d'interdire tout simplement les spectacles d'animaux dans les cirques plutôt que de vouloir arranger les choses de l'intérieur.
Non, c'est pas simple d'interdire. D'abord parce que c'est buter contre une porte qui est ouverte. Et buter pour faire quoi ? Aujourd'hui, vous interdisez les animaux dans les cirques. On en fait quoi des animaux ? Comme ma consoeur l'a dit, ils sont totalement imprégnés de l'humain, ces animaux. Ils sont sauvages entre guillemets, des générations élevées en captivité par des humains. Et vous pensez vraiment que demain, si ces éléphants qui ont déjà 50 ans, on les lâche dans un pré, ça va être le bonheur parfait ?
Merci beaucoup.
Est-ce que c'est pas une utopie ?
Merci beaucoup Cécile Magnan. On va poser la question aux invités en studio. Merci d'être intervenu en direct sur France Inter. Très belle journée à vous. Et je donne la parole bien sûr à Frank Schraffstetter. C'est une utopie votre combat ?
Non, pas du tout. Mais ce qu'il faut survenir, c'est pour ça que j'avais dit que le côté éthique est très important. Alors je vais prendre un petit peu par provocation, mais ça existait. C'était les zoos humains jusqu'en 1930, où il y a eu quand même 1,4 milliard de personnes qui ont été les voir. Est-ce que la question n'aurait pas été choquante si les gens s'étaient posé la question ? Oui, les zoos humains, finalement, il faut voir les bonnes conditions de ces humains. Il faut voir est-ce qu'ils sont bien détenus, est-ce qu'ils ont leur comportement qui arrive à être respecté, etc. Le vrai problème, s'ils ont été interdits, c'est parce que c'est un problème éthique qui se pose. Alors pourquoi aujourd'hui le problème éthique ne se pose pas pour l'animal, alors qu'il se posait tout à fait pour les zoos humains, que tout le monde a condamné, et heureusement.
Kevin Terranova, je ne vous cache pas qu'on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires d'auditeurs qui vont tous dans le même sens pour dire qu'il faut interdire les cirques avec des animaux.
C'est vrai qu'ils sont très présents sur les réseaux sociaux. On les voit partout sur les réseaux sociaux. Après, le jour où on prouvera au cirque scientifiquement que les animaux n'ont pas leur place dans les cirques, à mon avis, il y aura un grand changement. Pour l'instant, les animaux, ils sont bien, ils vivent longtemps, ils sont soignés. Vous savez, quand on va voir les animaux, avant d'acheter l'acte délibéré, d'acheter un ticket, les gens vont voir les animaux. Et on peut voir par soi-même s'ils sont bien. Ils sont ni trop gros, ni trop minces, pas de traces de coups, pas de coups de blessure, un regard vif, un poil brillant. Et quand on va vers les animaux, ils viennent vers nous. Alors, faites pas ça avec un tigre en visitant la ménagerie, mais tous les animaux domestiques viennent vers vous, ils viennent voir. Et ça, ça prouve qu'ils sont proches de l'homme, qu'ils vivent très bien au contact de l'homme.
Monsieur Terranova nous écrit Cyril sur l'application France Inter. Monsieur Terranova semble plein de bonne foi, mais fait l'impasse sur l'éthique et notre rapport à la nature. Il parle de principe de domestication. Un chat est-il heureux avec l'homme? Si oui, un lion peut-il aussi l'être? Mais devons-nous pour autant décider d'asservir ces animaux? Ça pose la question de pourquoi il y aurait certaines espèces qui seraient plus enclines à être domestiquées que d'autres, Marie-Claude Domsel?
Elles l'ont été depuis plus de 10 000 ans ou quelques, hein, parce que moi je ne considère pas par contre que nos tigres et autres sont domestiques, hein, c'est pas des domestiques, ils restent sauvages. Pour qu'il y ait une domestication, il faut un millier d'années à peu près. Là, vous le raccourcissez, c'est ce que je vous disais, sur quelques dizaines d'années. Ça ne veut pas dire... C'est d'ailleurs ce qui fait, moi je sais pour avoir élevé des tigres quand j'étais beaucoup plus jeune, qu'il leur reste un instinct sauvage. Moi, ils vivaient avec mes enfants, je peux vous dire qu'une fois ou deux, il y a eu un agacement, ça allait très vite, c'est pas comme un chat
ou
un chien. Maintenant, les autres animaux, moi je peux vous en parler, des animaux domestiques, effectivement, on pourrait se poser, mais ça se pose aussi de plus en plus, les animaux d'élevage, j'entends, qui nous nourrissent, qui eux sont beaucoup plus maltraités, ça, c'est pas le propos là, mais effectivement que certains cirques, parce que l'autre problème que vous avez, nous avons le même problème dans les zoos, tous les cirques ne sont pas bien, tous les zoos ne sont pas bien non plus. Même nous, vous savez, on est les zoos d'État, au Jardin des Plantes, il y a des choses que nous réprouvons encore, mais nous sommes étatiques, et on n'a pas les moyens de le faire. Et je sais qu'il faut toujours faire attention que quand on essaye de défendre une profession, derrière s'engouffrent des gens malhonnêtes. Même si on partageait votre éthique, il faut savoir ça derrière. Et donc pour revenir, et j'en finis parce que je suis partie sur les deux choses, voilà, il y a tous ces animaux d'élevage qu'on a mangés pour se nourrir et qu'on traite maintenant dans des conditions plus que sordide, vous ne pouvez pas imaginer. Enfin, on a vu beaucoup de choses maintenant grâce à L214, mais bon, les chiens
qui filment les abattoirs, notamment.
Les chats sont approchés pour nous et tout. Mais les animaux sauvages dont nous parlons là actuellement sont encore sauvages. Il n'a pas eu assez de temps, il y a une réhomogénéisation. Bon, je ne vais pas lancer sur la domestication, ça faudrait une heure pour que je vous explique de A à Z.
Je rappelle que vous représentez l'association Code Animal, hein, qui milite pour la défense de la faune sauvage captive. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé encore, je crois, c'est le mot tradition. Le cirque avec des animaux, c'est une tradition qui a plusieurs siècles en France. Ça, c'est pas évident à balayer du revers de la main.
Mais c'est pour ça que l'histoire se change avec l'histoire. Il s'agit pas d'interdire du jour au lendemain. Alors nous, on a fait une proposition commune avec 21 organisations pour arriver à aller vers une fin progressive. Mais il faut savoir aussi, c'est important de le dire, c'est que le cirque traditionnel est né autour du cheval, effectivement. Donc c'est pour ça que la piste est circulaire, d'ailleurs. Mais qu'il a fallu, en fait, avec les vagues coloniales, l'arrivée des animaux sauvages. Donc c'est pratiquement 80 ans, un siècle plus tard. Donc le cirque traditionnel, à la base, n'avait pas d'animaux sauvages. C'est un apport du colonialisme. Donc le cirque a évolué avec le temps parce que en fait, c'était une recherche d'exotisme, de sensationnel. Aujourd'hui, vive le cirque, mais oui, sans animaux, et il faut que le cirque évolue. De toute façon, s'il n'évolue pas, il est condamné.
Il doit évoluer avec les animaux. On voit l'exemple du célèbre cirque Barnum qui avait un troupeau d'éléphants qui a plié face à quelques animalistes, s'est séparé de ses éléphants et 6 mois après a fait faillite parce que les gens venaient voir les éléphants et sans ces éléphants, le cirque Barnum, qui était le plus grand cirque du monde, a fermé parce que sans éléphants, le public ne venait plus.
Parce qu'il faut le préparer. Et vous êtes inéluctablement conduit à préparer la sortie des animaux. Pardon, nous le savons.
Le jour où il n'y aura plus de cirque, après ce sera les zoos. Vous serez la prochaine personne sur la liste?
Non, parce que nous travaillons, nous avons été attaqués dans les années 70 et nous avons énormément travaillé. Et nous sommes loin d'avoir fini. Et nous travaillons en international avec la conservation de la nature.
Il y a encore plein de choses à faire avec les cirques, mais on fera exactement la même chose.
Vous ne pourrez jamais arriver ou alors il vous faut, et pardon, c'est fort coûteux, pas au muséum, on est très mal payé, mais il vous faut de vrais scientifiques, là vous qui aimez les scientifiques, mais d'éthologie, d'écologie, il vous faut des spécialistes. Par exemple, nous, si nous faisons un renforcement de population, il y a pendant un an un travail autour de l'animal qu'on va réintroduire, que ça doit être déjà un marcheur, il doit pas y avoir d'autres animaux, il doit être germe-free, il doit être ça. Il y a des spécialistes locaux qui vont être... contacté. Il y a également toute la population locale qui doit être prévenue. C'est un travail considérable, c'est un coût énorme. Vous ne pouvez pas l'assumer. Nous ne l'assumons, nous, qu'en Europe, parce que nous sommes nombreux et que nous nous sommes réunis pour cela.
Marie-Claude Bomsel, Kevin Terranova vous dit, vous êtes les prochains sur la liste. Sous-entendu, les zoos vont fermer aussi si un jour on interdit
après, les
cirques
animaleries,
avec
les
animaux.
De chevaux, les centriquettes, les chiens guides d'aveugles.
On pourrait parler de ce paradoxe qui fait que, par exemple, le parc Planète Sauvage s'appelle s'appelle ainsi près de Nantes. Le zoo de Thoiry aussi qui a choisi pour slogan « Born to be wild », né pour être sauvage. On entretient toujours cette ambiguïté de la nature sauvage qui est offerte au public alors qu'elle est en captivité.
Parce qu'elle en rêve, parce que l'idée de la nature est complètement folle aussi. Moi je reviens, je peux vous dire, j'ai eu la chance d'aller dernièrement au Botswana et au Rwanda. Dans les deux cas, j'ai vu une fois des gorilles, une autre fois des rhinocéros avec des gardes armés contre le braconnage là localement. En plus, quand vous êtes dans la nature, entre nous soit dit, là en tant qu'humain, vous avez compris que vous n'êtes pas grand-chose. Quand vous marchez 3 heures pour aller voir des gorilles, en dehors du fait que ça vous a ruiné financièrement, ça vous ruine mentalement et physiquement, parce qu'effectivement, vous marchez 3 heures sous la pluie, dans les orties, etc., là où vivent les gorilles. Et vous les trouvez avec des gardes armés autour, parce que sinon il y a du braconnage. C'est ça la vraie nature maintenant. Et on va pas parler de la destruction de la nature en général et tout. Elle en rêve. Mais nous, pendant ce temps-là, les zoos, à part le muséum, remarquez bien qu'on s'appelle toujours ménagerie du jardin des plantes, ce qui est vraiment le terme le plus désuet que je connaisse. Et il y a un marketing derrière. Moi, je n'y ai jamais cru, personnellement. Mais ça, c'est la non-culture zoologique et, comment dirais-je, naturaliste de la France, où on aime la culture et pas la nature. La nature, elle est toujours youpi, tout est idéal. Non,
et les cages de la ménagerie du jardin des plantes
aussi
sont assez grandes pour les singes, notamment.
Non, pour certaines, non. Mais alors là, il y a des groupes sociaux et nous faisons énormément. Là, on ne fait pas du cirque, c'est du coaching, du training médical. Il y a énormément de ce qu'on appelle enrichissement du milieu. Des caches, je reviens, des endroits où les troncs sont mobiles pour les singes, etc. etc. Mais c'est trop petit, nous en avons conscience. Mais là, alors, je n'en appellerai pas à l'État, ça fait 50 ans que j'appelle à l'État pour qu'il aide à la ménagerie du jardin. Il n'aidera pas.
Mais c'est ça qui est...
Franck Schraffstetter.
C'est ça qui est atterrant, c'est-à-dire qu'on a conscience qu'il faut enrichir le milieu parce que l'animal, justement, n'a pas les conditions qui sont compatibles avec ses besoins physiologiques. Plutôt que se poser la question de la captivité, est-ce qu'effectivement elle est viable ou pas? Est-ce qu'elle est acceptable d'un point de vue éthique, etc.? Non, on va faire une sorte d'enrichissement, on va cacher la nourriture, etc. C'est une non-solution.
Parce que c'est aussi un conservatoire de biodiversité. C'est important de garder ces espèces sous les yeux, Franck Schaffstetter.
On confond conservation et conserverie. Je veux dire, les programmes de conservation, il y en a certains, mais la vraie conservation, elle se fait in situ, c'est-à-dire sur le site de l'animal, avec des programmes comme Help Congo, Calouette, etc. Oui. Ça a du sens. Alors aujourd'hui, les zoos, effectivement, ils vont envoyer de l'argent. Je vous prends un exemple tout simple. Amnéville, par exemple, avait son ticket d'entrée qui est à 30 euros. Ils ont monté à 36 euros. Il y a 1 euro sur les 6 euros de bénéfices qui part systématiquement pour des programmes de conservation. Moi, demain, je suis boulanger. Je fais une baguette à 1 euro. Je la monte à 1,02 €. Les 2 centimes, si je les envoie à des programmes de conservation, est-ce que ça fait une boulangerie qui fait de la conservation animale? Non, ça veut dire que c'est l'argent qui est prélevé.
On s'achète une bonne conscience, plutôt.
Alors, il y en a certains qui font certains programmes, mais je veux dire, ça reste relativement une goutte d'eau dans un océan.
On approche de la fin de l'émission. J'aimerais qu'on dise aussi un mot des delphinariums, rapidement.
Quand on a de l'argent, on envoie des spécialistes, on envoie des matériels, on renforce les populations et on donne de l'argent, effectivement, à la nature.
Et
c'est pas nous qui la sauverons.
Les delphinariums, j'y arrive. Sujet important. Il y a eu encore le week-end dernier au Parc Astérix, un des militants qui ont brandi des banderoles et qui ont interrompu un spectacle. Certains auditeurs nous écrivent pour nous dire, au moins, ça évite d'aller perturber les dauphins dans leur habitat naturel. Les dauphins qui vivent à l'état sauvage, on va pas les déranger si on va voir ceux qui sont en captivité au Marineland d'Antibes, par exemple. Que répondez-vous à ça, Franck Schraffstetter?
Rouvrons dans ce cas-là les zoos humains et puis mettons des aborigènes dans les zoos humains, etc. Et recommençons la même chose et on verra ce que les gens en pensent. Et bien sûr que c'est inacceptable, parce que c'est
radical.
La même chose.
Marie-Claude Bamsel.
Bon, je connais très mal le problème des delphinariums, je n'aime pas ça du tout personnellement. Je pense qu'on peut aller, par exemple, aux Açores. Moi, j'ai été aux Açores en Europe, vous voyez, c'est pas très cher. On voit énormément de dauphins partout.
Sans les déranger.
Parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens là-bas, une fois de plus.
Dernier mot rapide, Kevin Terranova.
Par rapport à la conservation, je voudrais juste dire que dans la nature, quand il n'y aura plus d'espèces sauvages, ou très peu, parce que malheureusement on y arrive, quand il n'y en aura plus dans la nature, il n'y en aura plus dans les zoos, il n'y en aura plus dans les cirques, je pense que ce combat aura des résultats quelque peu mitigés.
C'est terrible comme mot de la fin, et pourtant il faut bien terminer. Lui, c'est un alligator, il le dit très clairement au début de la chanson. Voici David Bowie sur France Inter. I'm an alligator. I'm a mama, papa coming for you. I'm a space invader. Be a rock and rollin' bitch for you. Keep your mouth shut. Just smoking like a big monkey bird. And I'm busting up my brains for the world. Ooh, keep your electric out.
Donne-le.
Merci.
Extrait de l'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider-Man from Mars, pardon, The Spider from Mars, n'importe quoi, c'est sorti en 72 et c'était Bowie sur France Inter. Mes invités ont débattu en toute liberté sur les animaux en captivité. J'ai à présent une dernière question à leur poser.
Le débat de midi sur France Inter.
Question rituelle dans cette émission. Sur quel sujet avez-vous déjà changé d'avis ? Et votre réponse peut porter d'ailleurs sur n'importe quel sujet, pas forcément sur les animaux. On commence avec vous, Kevin Terranova, porte-parole des cirques.
Yes, lorsque j'étais adolescent, vers 12-13 ans, je suis devenu un court moment végétarien et je vous jure que c'est vrai. Je trouvais abominable le fait de tuer un pauvre animal sans défense pour le manger. Puis je me suis rendu compte que c'était le cercle de la vie, qu'une fois mort et enterré, les vers n'auraient aucun scrupule ni aucun état d'âme à se goinfrer sur mon corps. Puis j'ai imaginé nos belles campagnes françaises, bien vides et bien tristes, sans élevage de vaches, de cochons, de poules ou encore de moutons. Bref, plus de vaches broutant tranquillement sur la route de nos vacances. Cependant, je m'engage ce jour. Et devant vous, sur France Inter, à devenir végétarien, voire même végane, le jour où les lionnes laisseront les gazelles tranquilles pour manger du manioc, des courgettes et des asperges, et le tout sans gluten.
Il avait préparé sa réponse, semble-t-il. Yes, il n'est préparé. Pas végétarien. Merci beaucoup, Frank Schrafstetter, fervent opposant donc à la captivité des animaux. C'est à vous. Sur quoi avez-vous changé d'avis ?
C'est plus une évolution par rapport à un point de vue qu'on nous impose, entre guillemets, par rapport au peuple rom, notamment avec cette image au feu rouge, etc., insupportable. J'ai simplement parrainé des roms sans papier. Et quand on voit l'histoire de ce peuple rom, là c'était un couple qui venait de Serbie, qui était menacé de viol, qui était menacé de mort parce qu'ils étaient roms. Et quand on voit finalement l'envers du décor de ce peuple rom, c'est vraiment une vision de compassion pour eux qui est loin de la caricature qu'on peut en faire aujourd'hui.
Petite question en rapport avec la précédente intervention, êtes-vous végétarien ?
Je suis végane, oui.
Végane, on s'en doutait. Marie-Claude Bomsel, c'est à vous. Vétérinaire, je le rappelle.
Moi, j'ai un problème, je change fréquemment d'avis parce que je trouve que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Donc j'aurais des milliers de choses à vous dire. Mais peut-être la chose la plus étonnante, c'est que finalement j'aime la science. Vous allez me dire, c'est étonnant. Oui, parce que j'étais quelqu'un qui était très littéraire à l'époque où je suis rentré en veto, on faisait littéraire. Et pour moi, la science, c'était quelque chose d'ardu, de difficile, de fermé et de définitif. C'est là où je ne suis pas d'accord. Pas du tout. Je vous en supplie. Plus faite de la science. On a toujours une curiosité. C'est toujours remis en question, contrairement à beaucoup de disciplines qui restent très fermées. Vous apprenez de plus en plus. Et bon, c'est peut-être la chance d'avoir vécu au muséum, même s'il y a eu des mauvais moments. Vous avez comme ça des contacts avec diverses vues de tout le monde, contrairement aux littéraires ou autres qui sont fermés dans leur discipline.
Vous conseillez la filière scientifique aux jeunes filles, notamment.
Surtout, je dis la science, que moi, je croyais très rébarbative. Je peux vous dire que c'est quelque chose de formidable. Et en plus, comme ça va très vite, par exemple, moi, mes petits-enfants me poussent à relire des choses de science. Elle a tellement évolué, je reviens à l'ADN et tout. Et ça, c'est merveilleux, c'est tout le temps en mouvement. C'est ça qui devrait conduire le monde, pas le reste.
Vous passerez le bonjour à Nénette, l'orang-outan de notre
entendu.
Part.
Entendu. Mais vous savez,
sans
Nénette, il faudra que je lui explique, parce que les médias n'est pas toujours contente de vous. Mais je
lui
dirai, vous
avez
été
là-dessus.
Très gentil.
On n'est pas content des médias sur Nénette, pourquoi ?
Non, mais Nénette, pas elle. Elle n'aime pas toujours les journalistes, les photos, les trucs.
Mon histoire naturelle. Vétérinaire auprès des animaux sauvages. Votre livre est à lire chez Flammarion. Un autre regard sur les zoos de Frank Schrafstetter aux éditions Les Points sur les I. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Kevin Terranova d'être venu officier comme porte-parole du cirque traditionnel.
Merci
aux auditeurs qui ont été très nombreux à nous écrire. Les questions liées au bien-être animal font toujours beaucoup réagir. Bonne journée à tous. Il ne vous a pas échappé que l'équipe de France de foot joue un petit match ce soir contre les Belges. Et demain, dans le débat de midi, je vous propose un débat sur l'arbitrage vidéo. C'est la première fois que les arbitres utilisent la vidéo pour le mondial et ça change bien des choses. Il pourrait bien être décisif ce soir comme il l'a été sur quelques rencontres. Rendez-vous demain et donc ce sera à midi, pardi.